J'allais sur Play. Ah, les technologies, hein? Alors, bonjour à vous tous, ici présents, et aussi à tous ceux et celles qui nous écoutent via Internet. Vous savez, nos prédications sont enregistrées, elles sont mises sur le web, et on sait que nombreux sont dans la francophonie du monde qui écoutent nos messages. Alors, salutations également à vous tous. Ma prière ce matin est que Dieu touche votre cœur d'une manière tout à fait spéciale. Et ce spécial-là, c'est qu'il fasse quelque chose dans chacun d'entre nous, dans ce qu'on a vraiment de besoin, selon notre besoin bien à nous, bien à vous. Et qu'il nous transforme tous un petit peu plus ce matin et dans les jours qui vont suivre à ressembler à la ressemblance de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, si vous avez entendu le message donné par notre frère Michel Pedneau la semaine dernière, et si, comme moi, vous avez été encouragé, fortifié par ce bref exposé de ces qualités qui ont caractérisé le succès du prophète Samuel dans son service pour l'Éternel. Alors, j'ai donc un autre personnage ce matin à vous présenter. Quelqu'un de bien particulier que vous connaissez déjà tous, du moins je l'espère. Du moins, la plupart des gens ont une bonne idée de ce qu'il a vécu, mais peut-être un peu moins de qui il était vraiment. Qui il était aux yeux des hommes et de ses contemporains, et surtout, qui il était aux yeux de Dieu. Et peut-être que mon titre donne un petit indice de qui je vais parler. C'est en fait une portion d'une citation, quelqu'un qui a dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Alors, est-ce qu'il y en a peut-être qui savent de qui je parle ici? Hein? On parle de Job. Alors, tournez avec moi dans le livre de Job, évidemment au chapitre 1. Et si vous avez déjà passé par la souffrance, passé par la maladie, un deuil ou même de l'injustice, ce livre-là est, à mon avis, une des meilleures prescriptions à la colère, au doute, au découragement qui peut nous envahir. Et personnellement, je travaille beaucoup, beaucoup avec l'histoire de Job auprès des personnes endeuillées. C'est un bijou, c'est un diamant que Dieu nous a donné à travers l'auteur de ce livre. Par contre, ce matin, je désire pas vous entretenir sur le thème de la souffrance, mais plutôt concentrer notre regard sur qui est ce Job. Et je veux me servir de cela ce matin comme tremplin vers mon message final. Alors ce matin, on va faire la lecture des versets 1 à 9 et j'ai un serviteur ici qui va nous en faire la lecture. Alors je demanderai à Sean Isabelle de s'avancer et de nous en faire la lecture. Donc je vais tenir le micro pour toi, Sean. Alors on est au chapitre 1, verset 9. Pour ceux qui n'ont pas leur Bible, vous pouvez lire à l'écran. Et est-ce qu'on a la même version? Super, Louis Segond, hein?
Je sais pas, mais en tout cas. Il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7 000 brebis, 3 000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânes et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils pour Puis ils se levaient de bon matin et offraient pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. » C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu ? » Et Satan répondit à l'Éternel, « Je viens de parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ?»
Merci beaucoup, Sean. Ça n'a pas été super, Sean. C'est bon, merci beaucoup. Il a bien fait ça, hein? J'ai demandé de lire, parce que quand c'est quelqu'un d'autre qui lit, on porte attention. Je savais que vous auriez une meilleure attention. Donc, viens lire le liste, reste Sean. OK, avant tout, là, c'est important, en tout cas pour moi, je suis cartésien et j'aime me situer dans le temps et l'espace avant de pouvoir aller dans plus de détails et mettre un contexte, une bonne toile de fond à cela. Alors, Job vivait au pays d'Uth. Alors, ne pas confondre avec Ur, qui est le pays d'origine d'Abraham. Alors, Ur était situé au sud de l'Irak actuel, alors par le carré bleu que vous voyez sur la carte. Mais Uth aurait été plutôt une région dans le pays d'Édom. Donc, selon Jérémie 4, 21, il est indiqué par le cercle rouge, donc juste au sud de la mer morte des terres d'Israël. On croit également que Job est un personnage de l'époque des patriarches. Donc, qui dit patriarche, dit quelqu'un quelque part dans le livre de la Genèse. Hein? Et plusieurs arguments militent en faveur d'un patriarche post-déluge, après le déluge, en particulier à cause de l'âge de son décès, qu'on estime, selon certains experts, autour de 200 ans. Donc, chapitre 42, verset 16 du livre de Job. Donc, un descendant d'un des trois fils de Noé. Et peut-être même aurait-il été un contemporain de Térak, le père d'Abraham, ou d'Abraham, Isaac, Jacob, peut-être même Moïse. Peut-être même une connaissance de Jéthro, le beau-père de Moïse. Alors, Jéthro qui était à Madian, alors région voisine l'une de l'autre, alors vivaient tous deux dans des régions voisines. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que Job ne vivait pas sous la loi mosaïque, la loi que l'Éternel donna lui-même à son serviteur Moïse pour son peuple. Et tout cela a été donné, on connaît l'histoire, à la montagne du Sinaï, et on peut le lire à partir du chapitre 20 du livre de l'Exode. Donc, Job, à titre de père de famille, agissait lui-même comme prêtre pour présenter à Dieu l'holocauste d'expiation des péchés pour ses enfants. Donc, c'est une pratique que l'on observait avant même d'avoir reçu cette loi à travers Moïse. Donc, l'établissement du service sacerdotal qui était strictement réservé aux Lévites dans la loi mosaïque. Donc, les patriarches, incluant Job, avant même d'avoir les ordonnances de la loi concernant les holocaustes, les sacrifices d'expiation, tenaient de tels rituels à l'égard et par crainte de l'Éternel. Et cela se faisait depuis bien longtemps déjà. Alors, ça a commencé au tout début. Et en fait, on croit que c'est l'Éternel lui-même. L'Éternel lui-même qui a institué ce rituel. Dès l'expulsion du jardin d'Éden. Alors, il fallait bien que quelqu'un donne l'exemple et montre à l'humanité qu'est-ce qui devait être fait. Alors, moi, je sais pas si vous savez, mais ce matin, quand j'ai vu le thème, j'étais un petit peu renversé parce que je vous dis, la préparation que j'ai eue s'est faite sans savoir le thème de ce matin. Alors, si vous avez été à notre première heure et vous avez regardé, considéré, médité sur le thème, alors vous allez voir qu'on vient se rejoindre. Et le Seigneur, croyez-vous à la souveraineté de Dieu dans ces choses-là? Moi, ça m'épate et c'est vraiment un travail, c'est un beau travail d'équipe qu'on fait lorsque quand on met cette préparation-là entre ses mains, et ça m'a vraiment renversé ce matin. On voit même à la fin du livre de Job, au chapitre 42, hein, que c'est l'Éternel lui-même qui demande aux amis de Job de présenter un holocauste pour chacun d'eux parce qu'ils n'avaient pas parlé favorablement de Dieu comme l'avait fait Job. Alors, pourquoi des holocaustes? Parce qu'on en parlait ce matin. Je pense que c'est toi, Gilles, qui mentionnait que les gens trouvent qu'on a un Dieu qui est sanguinaire, hein, qui exige le sang. Et évidemment, ce sang-là était versé à travers les holocaustes. Et évidemment, ça répugne bien des gens. Et c'est pour rien qu'on évite le discours lorsque on parle qu'on a été sauvé par à la croix. On évite du langage aux gens qu'on annonce l'Évangile de dire qu'on a été lavé par le sang parce que c'est un petit peu répugnant pour quelqu'un qui n'a jamais entendu le langage. Donc, voyons brièvement d'où ça vient et surtout le pourquoi. Alors, nous sommes bien sûr à l'aube de l'humanité, tel que nous le connaissons, c'est-à-dire Adam et Ève, chassés du jardin d'Éden pour leur unique désobéissance. Et à ce moment-là, le péché fait son introduction dans toute la création. Genèse 3, 21, nous lisons que Dieu s'est servi de la peau d'un animal pour revêtir Adam et Ève, afin de couvrir la honte qui les habitait, cette honte engendré par le péché. Mais vous savez, c'était pas la peau de l'animal qui est comme l'épicentre de ce rituel sacré, mais bien le sang qui a été versé par l'Holocauste sacrifié. On lit dans Hébreux, chapitre 9, verset 22, « Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. » Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est à la base, mes amis. Le sang est à la base de la justice de Dieu. Et le cœur de l'homme bat avec cette même notion. Et ça commence avec œil pour œil, dent pour dent, jusqu'à vie pour vie. Lorsqu'il y a un meurtre, le cœur de l'homme réclame justice. Le cœur de l'homme réclame le sang du coupable. Le sang fait justice. Alors, je vous demande de retenir ça quelques minutes parce que je vais y revenir plus tard. Donc, Dieu fait premièrement un holocauste pour Adam et Ève et on voit ensuite Abel. Abel qui fait un holocauste des premiers-nés de son troupeau. Et on lit ensuite que c'est une des premières choses que Noé a fait en sortant de l'arche, qui construit un autel et fait un holocauste avec tous les animaux purs, les bêtes pures. Donc, Noé pourrait être accusé là, d'avoir fait disparaître les premières espèces, avant même les problèmes climatiques. Donc, certainement que Noé et ses fils ont perpétué ce rituel jusqu'au fils de Jacob. Mais malheureusement, ce qui devait arriver est arrivé. Le cœur de l'homme étant ce qu'il est, une multitude de descendants des fils de Noé ont corrompu ce rituel et ont commencé et offraient des holocaustes à des faux dieux. Et même qu'à un moment donné, ce n'étaient plus des animaux qui étaient utilisés, c'était des personnes. On offrait des personnes en holocauste, des enfants qui passaient par le feu. Et moi, je pense que c'est pas pour rien. C'est pas pour rien que l'Éternel voulait exterminer ses peuples lorsqu'il a fait rentrer son peuple en Canaan et qu'il exigeait l'extermination de ses peuples qui avaient complètement corrompu ce qu'il demandait, qui n'amenait plus un holocauste à l'Éternel, le seul vrai Dieu. Il en avait ras-le-bol. Mais ce n'est pas ce que Job faisait, évidemment. Dieu portait un regard favorable sur Job. Et quel bel exemple! Quel bel exemple! Job, père de famille. Quel bel exemple pour nous, tous les parents, de persévérer dans la prière, dans l'intercession auprès du Seigneur pour leur protection, leur salut, leur engagement, leur conversion, leur dévotion. Job craignait le jugement de Dieu. Et il craignait ce jugement de Dieu même jusqu'à cause des parties de ses fils et de ses filles. Leur party de fin de semaine. En tout cas, je ne sais pas quelle sorte de party il y avait, quelle sorte de festin il faut tenir. Je suis pas vraiment intéressé à le savoir, mais c'était assez pour donner la chienne à Job. Pas la chienne à Job, mais à Job. Mais sans m'avoir été Job, j'aurais parlé, j'aurais dit, « Hey, les boys, slaquez un peu les parties, là, je suis prêt à battre mon bétail. » Tu sais, c'est comme, il y avait une crainte de ce qui se passait, et Job, par cette crainte-là, il continuait, il perpétuait ce rite qu'il savait instituer de l'Éternel, il le faisait par sainte crainte de l'Éternel. Et Dieu portait un regard favorable sur lui. Dieu avait même choisi de le bénir par le succès dans ses entreprises. Job était le plus considérable de tous les fils d'Orient. Oui, Job fut appauvri pour un temps. Appauvri à travers l'épreuve. Et c'est ce que il est mentionné dans Jacques 5:11. Hein, vous avez entendu parler de la patience de Job et vous connaissez la fin que Dieu a eu compassion de ça. Oui. C'est ce qui caractérise le livre. Mais ce n'est pas ce qui caractérise la vie de Job. Job, on devrait plutôt dire riche comme Job. Moi, je connaissais pas Crésus, mais Job, je sais qu'il était riche. Oui, Job, un homme d'affaires, important. Il était dans la business de l'élevage. Et on voit que c'est encore courant aujourd'hui. Par comparaison, moi je pense que si Job avait existé au 19e siècle, c'est lui qui aurait fondé la compagnie Apple. Parce que d'un sens, Job, il était le Steve Jobs de son temps. Elle n'est pas venue, celle-là, hein? Et probablement que dans ce temps-là, les gens devaient dire, écoute, si tu veux une bonne job, va voir ce gars-là. Donc, il était dans la business. Et n'empêche que, vous savez que pour qu'une entreprise ait autant de croissance, il faut y mettre beaucoup de temps et d'énergie. Et d'argent aussi. Mais c'est du temps investi. Et il faut y mettre, hein? Il dit, c'est directement proportionnel à l'effort que tu y mets. Et Dieu portait un regard favorable sur un homme d'affaires. Alors, les fils de Dieu, ainsi que Satan lui-même, hein, se présentent devant Dieu, fort probablement pour commencer à porter des accusations. Parce que c'est le grand accusateur, après tout, hein? Comme on lit dans Apocalypse, chapitre 12, verset 10. L'accusateur de nos frères, hein? qui se présentaient, qui les accusaient devant notre Dieu constamment, hein, jour et nuit. Et Dieu ne lui laisse même pas le temps d'ouvrir la bouche, même pas le temps de dire quelque chose qui lui lance le nom de Job en pleine face. Et il me semble de voir Satan, ouais, je savais bien que tu allais le nommer celle-là. Hmm? Et de toutes les personnes que Job, que Dieu aurait pu nommer, Job, l'homme d'affaires. Il me semble qu'il aurait pu mentionner un homme dévoué à une forme de service religieux. Tu sais, quelqu'un là, qui est socialement, spirituellement, religieusement engagé. Tu sais, quelqu'un qui a un titre là, comme un sacrificateur du Très-Haut. Ça existait dans ce temps-là. Mais non! Un homme d'affaires. Mais pas n'importe quel. Comme Dieu mentionne, « As-tu remarqué mon serviteur Job? » Il n'y a personne comme lui sur terre. C'est un homme intègre, droit, se détournant du mal. Et il me craint. Spécial, pas à peu près, hein? Mener une grande entreprise, mener une grosse business, sachant ce que sont les affaires. Ceux qui sont en affaires ici, ou qui l'ont déjà été, vous savez ce que je veux dire. Restez droit et intègre en affaires. Dans la jungle du commerce, dans la compétition, faire ce qu'il faut faire. La fin justifie les moyens. Job était effectivement une perle rare. Imaginez s'il avait été politicien. Et pas surprenant dans sa situation, quand les malheurs sont survenus, hein, quand les malheurs sont tombés sur le grand magnat de l'élevage du mouton et des chameaux, que des amis, entre guillemets, se sont présentés, hein, pour venir l'ennuyer, le harceler, hein, avec leur grand discours. Pas clean ton affaire. Tu caches certainement quelque chose. Mais est-ce que Job était un homme parfait? Ben, il était marié. Sa femme aurait probablement dit oui. Mais non! Hein? Malgré tous nos efforts, mon doux qu'on fait dur d'un fois. Mais c'est certainement, et c'est intéressant de voir les quelques mots que Dieu a utilisés pour décrire à Satan cet homme incomparable de son temps. Un serviteur, droit, intègre, se détournant du mal. C'est sûr que Job devait avoir des moments de faiblesse. Et Dieu était tout à fait en connaissance, en pleine connaissance de toutes ces choses. Et Satan aurait facilement trouvé une bébite. À quelque part, ça aurait été facile. Mais je crois que c'est le fait que ces mots-là, ce que Dieu a décrit, c'est ce qui caractérise. Et quand je dis caractérise, là, c'est que ça dépeint la personne d'une façon générale. Cette personne que Dieu observait. Non seulement ce qu'il observait en action, en comportement, en parole, mais c'est ce qu'il observait dans le cœur de Job. Et ce qu'il observait, c'est ce profond désir, un profond désir constant d'être agréable à Dieu. Même si parfois il y a des coches mal taillées. Et même si les épisodes désagréables ne concernaient même pas Job directement. Parce que Job s'en faisait même pour ses enfants. Job savait qu'il était redevable à Dieu pour son rôle de père. Souvenez-vous ce qui est arrivé à Élie, grand prophète, juge d'Israël. Je pense que Michel en a parlé la semaine passée. Hein? Élie qui a été passif face à la conduite de ses fils qui déshonoraient Dieu dans leur service. Et cela a apporté un jugement terrible à toute sa maison. Donc, Job craignait Dieu même pour sa famille. Job, qui n'avait pas de copie des Saintes Écritures pour le guider, l'enseigner, le corriger, pas de synagogue le jour du sabbat pour avoir un maître, un rabbin pour lui enseigner. Je pense que c'est là un bel exemple de ce que décrit l'apôtre Paul dans son épître aux Romains, au chapitre 2, verset 15. Hein, on lit, « Il », donc dans le contexte, on parle des païens, ceux qui n'avaient pas reçu la loi, « Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience, en rendant témoignage, et leur pensée s'accusant et se défendant tour à tour. » Donc, dans ce qu'on observait, dans ce que ces gens-là faisaient, on pouvait voir que naturellement, ils agissaient selon la loi. C'est comme programmé d'avance. C'est soigneusement installé par le grand programmeur dans nos petits processeurs. Ça a été mis là, en place. Et regardez bien la suite. Au verset 16, on lit, hein, « De c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. » Et c'est-tu pas extraordinaire? Job, qui n'avait ni entendu, ni rien lu de pareil, plus de 2000 ans avant la venue du Messie, et voilà ce qu'il répond à ses amis. Chapitre 19, les versets 25 à 27. « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai. Il me sera favorable. Mes yeux le verront et mon cœur et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente dedans de moi. » Job savait que ses actions allaient passer sous le regard de son Rédempteur vivant. N'est-ce pas merveilleux pour nous de vivre cette époque où l'on peut, nous, affirmer que l'on peut connaître, on connaît le Rédempteur, de savoir qui il est, qu'il s'est révélé à l'humanité en chair et en os, aux Juifs en premier, son peuple, qu'il l'a rejeté, puis ensuite aux Grecs, aux païens, à nous, par le message de ses disciples, agissant par la puissance de son Saint-Esprit, jusqu'à nous. Alors nous, est-ce qu'on fait comme les Juifs ou est-ce qu'on agit comme Job? Ce fameux Rédempteur vivant, est-ce qu'on le connaît? Encore mieux, de quelle façon est-ce qu'on le connaît? Ce matin, je veux vous le présenter en trois niveaux. Il y a différentes façons de le présenter, mais moi, je regarde ça et j'ai dit, tiens, trois façons. Trois façons de le connaître, trois niveaux. Le connaître assurément. Le connaître profondément. Et le connaître passionnément. Le connaître assurément. Dans sa prière au Père, Jésus dit, hein, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Jean 17, 3. Ayez cette assurance. Cette assurance d'être en sa présence pour l'éternité, de savoir avec certitude, assurément, que vous lui appartenez. Du moment que vous reconnaissez que vous êtes perdu sans lui, que le péché dont nous avons tous hérité dès notre naissance demeure non pardonné, non pardonné si vous n'acceptez pas que Christ est mort à la croix pour vous. L'agneau de Dieu étant le seul véritable sacrifice agréable à Dieu. Le seul holocauste, le seul sang. Vous vous souvenez ce qu'on a lu tantôt? Tu sais, j'ai dit, on va revenir là-dessus. Hein? Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Le sang de l'agneau, le seul sang qui pardonne toutes nos fautes. Passé, présent, avenir, toutes. Le connaissez-vous assurément? Mes amis, faites-le ce matin si ce n'est pas fait. Faites-le avant de quitter cet endroit. Est-ce qu'on le connaît profondément? Du moment que vous aurez cette assurance, que vous le connaîtrez assurément, le fruit de l'Esprit créera en vous ce désir, cette soif de le connaître plus profondément. C'est automatique. Lorsque l'Esprit de Dieu entre en nous, hein, il y a un travail qui se fait et là, c'est ceux qui se souviennent de leur premier jour, hein, après cette nouvelle naissance, on dirait qu'on brûle, on veut, on a soif, on lit et comme on est une éponge, on a ce désir de le connaître. Prendre du temps avec lui. Prendre du temps en prière, prendre du temps dans sa parole, prendre du temps avec son peuple. Restez pas isolés chez vous avec votre Bible. Si vous êtes réconciliés avec Dieu, vous êtes réconciliés avec son peuple. Ne soyez pas non plus dans une barque à la dérive, au gré du vent et des vagues. La réalité est encore la même aujourd'hui. C'est la même chose. Sachons-le, mes frères et sœurs, Satan continue. Il continue de se promener, de parcourir la terre comme il le faisait au temps de Job. Car il est écrit, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant. » Cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5:8. Et à un moment donné, il se présentera devant Dieu, si ce n'est pas déjà fait, pour vous accuser, pour nous accuser. Avant même qu'il ouvre la bouche, Dieu pourra lui répondre. Hein? Il pourra lui répondre. « As-tu remarqué mon serviteur, Daniel? » On va prendre Daniel. On va en prendre d'autres. J'espère que je pourrais prendre tout le monde. As-tu remarqué mon serviteur Daniel? As-tu remarqué sa barbe? As-tu remarqué mon serviteur Daniel? Et voilà ce qu'il pourra dire. Hein? Daniel est mort au péché. Daniel est mort au péché et maintenant, il vit pour moi. Il vit en mon Fils. Jésus-Christ. Romains, bon, j'ai utilisé Romains 6, 11 pour m'inspirer de ce qu'il pourrait répondre. J'aurais pu prendre Galates 2, 20. As-tu vu mon serviteur Daniel? Il a été crucifié avec mon fils. C'est plus lui qui vit. C'est mon fils qui vit en lui, en tout cas. Vous comprenez l'idée. Mais quelle réponse, hein? Quelle réponse? Il n'y a rien que Satan peut faire contre ça. Rien. Donc, le connaître. Le connaître assurément et le connaître profondément. Maintenant, un petit peu trop vite. Je sais que souvent, lorsque l'on parle de le connaître profondément, va amener justement ce besoin de lire et je pense qu'il faut le rappeler, c'est très important que si on ne s'attache pas, et ça on l'aurait dit souvent, hein, si on ne s'attache pas à sa parole, on sèche. Et sans nécessairement s'isoler, on peut venir ici chaque dimanche, Mais si on ne se nourrit pas entre chaque dimanche, on sèche. Et on l'a tous expérimenté. On le voit ce que c'est. Et c'est là que la dérive s'installe. Et c'est là que on ne s'en va pas vers la profondeur. Et c'est le moment idéal. C'est le moment idéal pour l'ennemi de venir faire son attaque, faire son accusation et mettre Dieu au défi sur comment on pourrait peut-être réagir dans l'épreuve. Donc, cette connaissance plus profonde va inévitablement nous entraîner à le connaître passionnément. Comme Samuel, comme on a vu la semaine dernière, Samuel, un homme passionné de Dieu. Et un exemple de ça plus récent, il y en a ici qui ont été à la conférence au mois de mai de Nate Brunson. Tu sais, lorsqu'on passe du temps avec quelqu'un là, qui est contagieux, là, tu sais, on est avec, là, je pense Nate, c'est quoi, deux jours et demi, tu sais, à l'écouter, à l'entendre, tu sais, puis quand la personne est contagieuse, là, bon, on pointe sa maladie. On a le goût là, d'être en action, là, si c'est pas avec lui, là, avec les gens qui étaient avec nous, là, puis c'est comme ça nous entraîne dans une passion. Parce qu'on a été près de lui, puis on s'est nourri de cette énergie-là qui dégageait à travers son enseignement de la parole. Et là, on veut se mettre en action. Alors, on désire se mettre en action. Hein? Et c'est ce que le Seigneur a mentionné à ses disciples. Hein? Allez de par toutes les nations, baptisez, enseignez tout ce que je vous ai prescrit. Allez. Bon, là, vous allez dire, oui, mais Steph, moi, je suis pas un évangéliste. Ou, j'ai pas l'étoffe d'un travailleur social, un travailleur de rue, tu sais, pour aller près des indigents. Je sais pas, c'est comme concrètement, il y en a qui vont dire, moi, les fermiers chrétiens, je suis pas capable. C'est un environnement que j'ai très de la difficulté. Ou peut-être, aller aider Carole au CAPED. De dire, moi, d'être là puis de recevoir les gens, les madames qui viennent visiter le centre, jaser avec eux autres. Mais je me sens pas capable. On dirait, je suis pas à l'aise avec ça. C'est peut-être pas nécessairement là que Dieu veut vous avoir en action. Des fois, on évite les endroits qui nous font peur. Mais pire encore, on néglige les endroits qui nous font pas peur. Mais vous savez, Je crois qu'une saine passion doit d'abord se développer pour nous-mêmes, puis notre entourage. Plusieurs ici sont pères et mères de famille. Tu sais, notre champ missionnaire immédiat, la maison. Pensez à Job. Job est inquiet pour sa maison. Sinon, ben c'est l'école. Les loisirs, le travail, tout dépendant de votre situation. Mais ce que je peux dire plus concrètement est que cette passion-là, cette connaissance grandissante, profonde de la parole, va se traduire en une crainte de Dieu. Une crainte de Dieu de plus en plus forte, de plus en plus aiguisée, et qui va faire de nous des serviteurs de Jésus-Christ, intègres, droits, se détournant du mal. Je termine avec ça. Hein? Je peux dire comme Job, je connais mon Rédempteur et il est vivant. Je le connais assurément. Je le connais et passionnément. Il est vivant. Alors, moi, je voudrais terminer avec un chant. Je ne sais pas, Billy, est-ce qu'on est capable de le mettre à l'écran? C'est un chant que plusieurs ici connaissent. Que, oui, on va chanter qu'il est vivant. Alors, il y a plusieurs aînés ici, et ça a été le chant des aînés pendant toute l'année dernière. Alors, je m'inviterai à vous lever et on va chanter ensemble. On y va à cappella, je pense qu'on est capable. Hein? On est prêt? Vivant, vivant, mon Sauveur est vivant. Oui, vivant pour toujours, vivant en son amour. versé en moi, sa vie est sans retour, car Jésus est vivant. Chante Alléluia, chante Alléluia, car mon Sauveur est vivant, oui, pour toujours. Chante Alléluia, chante Alléluia, car mon Sauveur est vivant. Amen. Bonne semaine à tous. Merci.